Le débat du jour. Loïc Bussière.
On estime à plus de 500 le nombre de détenus condamnés dans les procédures terroristes. Ils sont plus du double condamnés de droit commun à être identifiés comme radicalisés. Et une grande partie d'entre eux devraient quitter leur cellule d'ici l'an prochain, à date à laquelle leurs peines arriveront à leur terme. Un contingent qui constitue un risque majeur, selon les mots du procureur de la République, François Molins, parce que la prison n'est pas un antidote à la radicalisation. Un constat appuyé par le bilan plus que mitigé des unités dédiées censées prévenir la contagion des idées, ou par la fermeture du premier et pour l'instant unique centre de désengagement et de prévention l'an passé, parce que le manque de moyens et de savoir-faire rend la tâche éminemment complexe et qu'il n'y a à ce jour pas de recette miracle en la matière. Peut-on, sait-on déradicaliser un détenu? Quelle réponse apporter à une problématique qui se heurte à celle de la surpopulation carcérale? On en parle avec nos invités. Bonsoir Marie Cretenot.
Bonsoir.
Vous êtes juriste et responsable du plaidoyer à l'Observatoire international des prisons. Thomas Klotz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, notamment en charge de plusieurs dossiers impliquant des personnes accusées de terrorisme. Cette question que l'on pose de manière assez sibylline, peut-on radicaliser un détenu? C'est plus une question rhétorique qu'autre chose. On est censé, si on veut vraiment y répondre par un seul mot, de choisir le nom, Marie Cretenot?
Globalement, oui. Mais même la notion est compliquée. Même la radicalisation, en réalité, il n'y a pas vraiment de validité scientifique. On ne sait pas exactement de quoi on parle. Alors la déradicalisation, c'est encore autre chose. Et derrière, ce qui est envisagé, c'est le désengagement. C'est-à-dire que les personnes renoncent à la violence, il s'agit, mais pas forcément à leurs idées.
Thomas Klotz.
Oui. Il y a plusieurs, entre guillemets, portes d'entrée, à savoir la radicalisation des... Il ne faut pas confondre les gens qui sont dans les prisons françaises pour une appartenance à une à des associations de malfaiteurs en relation avec l'entreprise terroriste, donc c'est-à-dire les détenus dits pour mouvance et les détenus de droit commun qui, eux, peuvent se radicaliser par d'autres moyens sans que ce soit le fondement même de leur incarcération. Donc à partir de là, la déradicalisation, c'est quoi? C'est... Effectivement, un désengagement, un renoncement à la violence des gens qui sont détenus pour des causes dites de mouvance, mais aussi une prévention pour les détenus de droit commun, à savoir qu'ils ne prennent pas le chemin d'un salafisme de position extrême, alors que c'est pas la raison de leur incarcération. Donc c'est un débat extrêmement compliqué.
Et une entreprise colossale.
Et une entreprise colossale, puisque en plus c'est une solution... et une problématique humaine, et que pour connaître, pour parler de déradicalisation, il faut connaître les causes et connaître pourquoi et comment on s'est radicalisé et à quel niveau, à quel degré de radicalisation l'individu se trouve.
Marie Cretenot, ça pose également la question de l'identification de ces fameux détenus radicalisés. Vous le disiez, la radicalisation, on a peut-être un peu du mal à mettre une réalité précise autour de ce terme, mais savoir qui l'est, qui ne l'est pas, tout au moins en prison, c'est un peu compliqué.
C'est extrêmement compliqué et là-dessus, l'administration patauge quand même globalement. Pas que l'administration pénitentiaire, hein, enfin ça de manière générale, mais au sein de l'administration pénitentiaire, au sein des prisons, c'est encore plus prégnant. Il y a eu des grilles qui ont été faites avec des critères mais extrêmement larges. Il y avait à peu près tout et avec aussi derrière une sorte de stigmatisation en fait des musulmans. Par exemple, il faut rapporter, enfin analyser la longueur de la barbe, dire s'il y a un Coran en cellule, etc. Donc le prisme est très large, la pression est très forte et tout le monde tâtonne. Il peut y avoir un peu des signalements dans tous les sens qui derrière ont des conséquences. Les conséquences, c'est qu'il va y avoir une forme à la fois non seulement de compilation d'informations sur un nombre très large de détenus. Ces informations, on ne sait pas exactement comment elles sont vérifiées, où elles circulent et qui pourront suivre la personne. Et derrière, c'est aussi donc une personne qui va être signalée comme radicalisée. Aujourd'hui, on le sait, ça veut dire pas de libération anticipée dans le cadre d'un aménagement de peine. Et mais aussi des mesures de surveillance, des fouilles de cellules ou des fouilles à nu plus régulières. Il peut y avoir des dispositifs d'écoute. Enfin, ça engage en fait pas mal de mesures. Et derrière cette question-là, la radicalisation, il y a aussi toute la question de la désaffiliation vis-à-vis de la société, l'opposition aux institutions. Et ça, de manière générale, de toute façon, on le sait qu'en prison, le régime qui est appliqué aux personnes incarcérées renforce de manière générale l'opposition aux institutions.
Non, Thomas-Claude, est-ce que justement dans cette démarche d'identification d'un détenu radicalisé, on ne fait pas doublement fausse piste en stigmatisant des personnes qui sont simplement croyantes, musulmanes, et en même temps en passant à côté de ceux qui précisément vont peut-être pas faire en sorte de, j'allais dire, de la jouer profil bas?
C'est possible, c'est même un risque, mais qui n'appartient pas, enfin qui est pas propre à la prison. À savoir, on sait depuis assez longtemps que dans les thèses terroristes, il y a ce qu'on appelle une volonté aussi de dissimulation, de ce qu'on appelle la taquia, pour faire très simple. Et on va la retrouver dans tous les stades de la radicalisation, qu'elle soit carcérale ou non. Donc ça, on peut pas l'éviter. Maintenant, il serait fou de nier qu'il existe depuis les années 95 un phénomène de radicalisation extrêmement fort dans certaines prisons, avec une volonté entre guillemets de conquête sur une population carcérale qui trouve un écho. Ça, ce sont des choses qui existent depuis plus de 20 ans en prison, qu'on n'a pas à les découvrir aujourd'hui. Ça a toujours été. Maintenant, il y a une exception avec les drames qu'on a connus et un écho particulier, on va dire, de ce mouvement, mais il est bien difficile de répondre à l'hypothèse d'une dissimulation ou non. C'est une tâche qui, pour nous avocats, premièrement, on n'en sait pour le coup rien parce qu'on n'a aucun moyen pour sonder ou investiguer, et c'est pas notre métier, mais j'imagine que c'est une question particulièrement complexe pour l'administration pénitentiaire et pour les services de renseignement.
Alors, je citais tout à l'heure les propos du procureur de la République, François Molins, qui se dit inquiet, qui dit que les personnes justement qui sont appelées à sortir de prison et qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme, en tout cas qui sont identifiées comme radicalisées, constituent un risque majeur. Je citais également Catherine Champrenault, qui est la procureure générale de la Cour d'appel de Paris, qui dit, elle aussi, cette semaine dans Le Parisien, il y a de quoi être inquiet. On sent, on entend cette inquiétude et pourtant on a l'impression qu'il y a, malgré tout ce qui est mis en place, pas de réponse efficace, Marie Cretenot.
Oui, parce qu'en fait la question c'est de savoir ce qui s'est passé pour eux en détention. Et ce qui s'est passé pour eux n'a jamais été réfléchi et très pensé en fait. Ils sont retrouvés, donc ces publics-là sont retrouvés majoritairement dans les unités dédiées, donc ces quartiers séparés, dont le régime a été pensé d'ailleurs après leur mise en application, avec des durcissements successifs du régime à la suite d'attentats et de faits divers. Mais ils sont, en fait, on est dans une logique de contention. Ils sont mis ensemble pour éviter la propagation des idées en détention. On a une approche extrêmement défensive. Regroupés ensemble, on peut voir aussi l'effet de durcissement qu'il peut y avoir en fait dans leur logique. On met des profils quand même extrêmement différents parfois, surtout au début. Donc aussi une logique de renforcement. Et là maintenant, ils sont dans un régime extrêmement coercitif. On est dans c'est quasiment le régime de l'isolement qui, quand il est appliqué sur dans la durée, généralement on parle de torture blanche pour ce régime-là. Donc les effets de ça et de dans quel état ils vont sortir et avec quelles idées, oui, c'est sûr qu'on se les pose maintenant, mais on aurait pu aussi se les poser avant et essayer de mettre en place quelque chose pour au moins tenter d'avoir, qui est en procédure de désengagement.
Non, Thomas, je suis complètement d'accord. Oui.
On prend le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on met en place en fait des dispositifs et puis on réfléchit après à leur efficacité.
Non, on a changé de dispositif parfois plusieurs fois dans l'année. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un affolement, une augmentation de la population carcérale très très forte avec le nombre de départs et aussi de retours. Personne n'a anticipé, personne n'a vu venir, personne n'avait non plus les solutions. Et moi je suis totalement d'accord avec ce qui vient de vous être dit. Au début, on a retrouvé des jeunes qui avaient passé 10 jours en Syrie, qui se retrouvaient avec, entre guillemets, les poids lourds du djihadisme et des gens qui n'auraient peut-être même pas rencontré là-bas sur zone. Et on avait l'instauration d'une mini-charia en détention par moment. On a eu des échos de certains de nos clients et du coup, la fonction d'expiation du mal de la peine très difficile, très difficile. Normalement, quand on rentre en prison, peut-être dans un idéal, mais en tout cas dans une prison républicaine, on en ressort différent, avec une réflexion sur la peine. Pour le droit commun, on y veille. Là,
c'est une vision très vertueuse.
C'est une vision vertueuse, c'est l'idéal républicain de la prison, c'est le principe. Par moment, il faut appeler les principes quand on est dans des choses aussi graves en termes de liberté publique. Donc, on est sur les principes et on peut espérer, en tout cas, d'avoir parcouru un chemin durant sa détention. Est-ce qu'on a un constat d'échec total ou pas là-dessus sur les détenus radicalisés? Personnellement, je n'en sais rien. On sait en tout cas qu'on a une inquiétude des gens qui vont sortir et peut-être, voilà.
Alors, je vous laisse la parole juste un instant, Thomas Klotz. Je reviens à vous, Marie-Christine, dans un instant. Vous qui côtoyez justement des personnes qui sont impliquées dans des dossiers de terrorisme, on parlait de cette inquiétude justement qui est relayée au plus haut niveau, hein, par le procureur de la République, François Molins. Est-ce que ces quelques 450, je crois, personnes radicalisées qui sont appelées, qui sont potentiellement libérables en 2019, est-ce que ce sont autant de récidivistes potentiels?
Mais j'en ai. Comment voulez-vous répondre? Comment voulez-vous répondre à une telle question? La récidive dans la population pénale en général est assez, même si on vous dit l'inverse, assez marginale. Le taux de récidive dans la population, j'entends, de droit pénal général, c'est loin d'être majoritaire. C'est même, je n'ai pas de statistiques en tête, mais en tout cas.
Cette question, parce que c'est ce que sous-entend justement. C'est cette inquiétude qui est relayée. Quand on parle de risque majeur, effectivement, ça veut dire que précisément, on n'a pas su trouver les bonnes réponses en prison.
Ils ont en tout cas une vision que nous, on n'a peut-être pas sur l'état de radicalisation des 420 personnes. C'est très difficile de répondre à cette question. C'est très difficile, surtout avec les drames qu'on a connus. Et quand on se rend compte que sur les attentats qui ont été commis en France, beaucoup étaient passés par la case prison. Donc effectivement, la question se pose. Maintenant, la réponse, autant de récidives ou pas, un avocat ne peut pas répondre à une question comme celle-ci. Il faut comprendre.
Marie Cretneau, je vous laisse la parole.
Ce qui est à craindre, c'est que ce qui risque d'être déployé, ça va être en fait des mesures de surveillance, des mesures de contrôle, des mesures. On va être sur cette approche vis-à-vis de ces publics-là. Aujourd'hui, on sait les limites que ça peut avoir. Et surtout, le risque, ça va être le rejet en fait de toute approche inclusive. Alors c'est sûr que ça peut être compliqué en fait pour la population générale de se dire oui, il faut les ramener dans le giron. Mais la réalité, c'est que oui. Et que si on le fait pas, dans ces cas-là, le risque est même accru. Donc il va falloir avoir une approche inclusive, d'essayer d'éviter au maximum la stigmatisation, le rejet qu'il y a en général, même des personnes qui sortent de prison, là il va être encore renforcé. Mais s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas en fait un partenariat, s'il n'y a pas du monde autour d'eux pour régler les problématiques sociales qu'il peut y avoir derrière aussi, pour une insertion professionnelle, n'importe quoi, si on fait pas ça, en fait, on est voué qu'à les surveiller, contrôler, et jusqu'au jour où ils passeront entre les mailles du filet.
Et vous allez dans le sens d'Esther Benbassa, qui est sénatrice Europe Écologie des Verts et qui est co-rédactrice d'un rapport sur le désendoctrinement des djihadistes, justement, qui précisément dit que la solution passe par la réinsertion. C'est a priori pas celle vers laquelle on se dirige.
Non, mais c'est ce qui n'est pas fait non plus en prison, et c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on peut attendre en fait à la sortie si en détention on a été juste à essayer de s'en protéger et qu'il s'est rien passé, enfin qu'on n'a pas cherché non plus à aller à confronter les points de vue, à leur ouvrir, et qu'il y a des intervenants extérieurs qui viennent discuter, qu'il y a des activités. C'est si en fait ils sont aussi l'ennemi numéro un en détention, qu'on a peur d'eux, qu'en fait en face ils n'ont que des surveillants en tenue d'intervention, enfin beauté, casqué, et qui si c'est que ça les contacts sociaux, enfin on voit bien ce que ça va produire. On est obligé d'avoir une approche inclusive, on est obligé en fait ils font partie de la société, d'ailleurs ils sont amenés à sortir, enfin.
Thomas Klotz, est-ce que l'erreur fondamentale dans tout ça, c'est une erreur de diagnostic sur la réponse justement qu'on doit apporter?
Erreur diagnostic, je sais pas, je pense pas.
Dans le sens où on a une réponse.
Oui, non, mais la
non inclusive.
L'accompagnement, l'effort, la main tendue, c'est pas suffisant, mais c'est en tout cas indispensable, c'est un préalable à tout. C'est-à-dire que retrouver sa place ou en trouver une, tout simplement, dans un monde, quand on sort de détention, ça doit être le souci des pouvoirs publics d'essayer de repenser à la place de l'individu une fois qu'elle sera dehors. Donc il y a une phase de surveillance, bien évidemment, qui s'impose pour la sécurité publique, mais il faut aller au-delà de ça et pas se contenter de prévenir un danger. Il faut essayer d'annihiler ce danger à l'avenir de manière dans le fond des choses. Et pour cela, il y a un travail qui, s'il n'a pas pu être fait en détention, c'est exactement ce qui vous êtes exposé, s'impose à la sortie de prison. S'impose.
Par définition, ça, cette problématique de la déradicalisation, désengagement, elle implique un traitement au cas par cas. Je voudrais qu'on parle de la question des moyens. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens justement de traiter ces cas individuellement, Marie Crétenot?
En termes de moyens financiers, alors là, on a su débloquer des crédits. Sur ces questions-là, il y a eu beaucoup de crédits qui ont été développés. Alors, dans la question des activités en détention, de manière générale, enfin, c'est l'oisiveté en détention. Il y a 2 heures d'activité par jour par détenu. Quand il y a eu le plan de lutte contre le terrorisme, là, on a débloqué en fait des crédits pour développer. C'était dit massivement. Le fait est qu'il n'y a pas eu une application massive, mais les activités en détention. Donc ça, il y a eu énormément de fonds dépensés pour les intervenants dans les unités dédiées, que ce soit des personnels. Il y a eu des recrutements d'éducateurs, de psychologues, etc. Mais en fait, c'est même pas en termes de moyens, c'est en termes de penser une politique publique. Parce que pour ça, manifestement, on sait débloquer les moyens. La question, c'est quelle approche on veut bien avoir vis-à-vis de ces publics.
Thomas Claude.
Il faut entre guillemets stimuler le volontariat. Il y a une démarche volontaire de la part des détenus. Il y a une phase d'effort de toute façon à faire pour se réinsérer. Après, faire renoncer quelqu'un à une pratique très rigoureuse, très tranchée, on le sait, c'est extrêmement difficile. Mais montrer que quelque chose est possible pour lui dehors, et ne pas l'enfermer là-dedans et lui montrer que au final, il a, une fois sa peine de prison purgée, la possibilité d'avoir une autre écoute, une autre accueil que dans un cadre disciplinaire, je pense que ça peut avoir des effets extrêmement extrêmement bénéfiques sur l'individu et justement sur le cas par cas que vous montrez. C'est-à-dire qu'il y a la lueur d'espoir qu'on doit aussi donner à ces gens et montrer que certes, voilà, la peine a été longue, ils sont sortis, et qu'au sortir, on ne fait pas que les surveiller, mais on leur donne non pas une seconde chance, mais on leur offre en tout cas une possibilité de renoncer à ce qui les a conduits en prison. Voilà.
Marie Crétenot, vous voulez ajouter quelque chose?
Non,
sur cette question justement des moyens, des
Aussi le risque, en fait, faut pas non plus oublier aussi le lot commun des détenus, parce que là,
je vais vous le dire effectivement, pour le coup, enfin, c'est quand même une problématique qui se heurte à la surpopulation carcérale. Oui. Si on met beaucoup de moyens pour traiter finalement une minorité de détenus, ça veut dire qu'on oublie aussi une grande partie des personnes dans les maisons d'arrêt françaises.
Ça, c'est ce qu'on fait. Donc en fait, oui, il y a la surpopulation carcérale, et ensuite le manque de moyens, il est criant sur tout pour la majorité de la population détenue. Sur la question des activités, comme je le disais, mais de l'accès aux soins, même au niveau des conditions de détention, d'hébergement. Enfin là, on est dans des conditions d'une indignité totale, où il peut y avoir 3 personnes dans 9 mètres carrés qui sont confinées là la majeure partie de la journée. Les effets que ça produit aussi, ça de manière générale, enfin en termes d'opposition aux institutions, pour des personnes qui ont le sentiment de ne pas avoir été respectées dans leurs droits, pas traitées avec équité. De toute façon, ça, on sait que ça génère aussi la récidive de manière générale. Donc, il y a surtout ne pas oublier, en fait, enfin, de penser globalement les choses, pas se cibler que sur ces publics, se souvenir que derrière ces détenus dits radicalisés, il y a des réalités extrêmement différentes aussi. Il n'y a pas que des personnes qui ont voulu, qui ont commis des attentats, qui sont parties en Syrie se battre là-bas. Il y a aussi des personnes qui, beaucoup moins engagées là-dedans, qui ont envoyé de l'argent, par exemple, à des proches qui étaient sur place, et c'est pas du tout la même réalité. Donc, oui, il y a le cas par cas. Et
Oui, donc c'est un problème global et compliqué à cerner, on l'aura compris. Je vous remercie en tout cas à Marie Cretenot, Thomas Klotz d'avoir merci. Répondu à l'invitation des RFI. Merci également à Hélène Avril à la réalisation et à Florence Ponce pour la préparation de ce débat RFI. Le retour de l'information dans un instant.